Oui.
qui est
Oui.
en crèche municipale à Châtenay-Malabry. Et je viens d'accoucher d'un petit garçon. Donc bon, là, c'est un nouveau-né, il a 10 jours, hein. Donc je suis pas encore sur l'estime de soi, mais c'est vrai que le sujet m'intéressait pour ma fille de 3 ans, du coup, qui est en crèche. Et c'est vrai que bah, j'aimerais l'aider et l'accompagner pour. Alors c'est vrai que la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi est très proche et et la différence est très ténue. Mais comment je peux l'accompagner à se sentir plus à l'aise en communauté, à pouvoir plus s'affirmer, être plus à l'aise en communauté. C'est vrai que chez nous, avec nous, elle est totalement épanouie. Et c'est vrai que quand elle se retrouve avec beaucoup de monde ou dans des situations qu'elle ne connaît pas, elle a tendance à se renfermer et à se recroqueviller sur elle-même. Donc, j'aurais aimé avoir des clés pour pouvoir l'accompagner.
D'accord. Merci Caroline de votre intervention. C'est vrai que c'est déjà il faut savoir que c'est pas évident pour les enfants d'être en collectivité. La crèche, le groupe, c'est pesant. Le groupe, c'est ce n'est pas très confortable et ce n'est pas, comment dire, naturel d'être à l'aise quand on est petit comme ça dans un grand groupe. Donc, les choses vont. Enfin, la question de s'affirmer, c'est pas quand on a 3 ans ou 2 ans, ce sont des choses qui vont venir par la suite. L'idée déjà que votre petite fille soit à l'aise quand elle est avec vous dans la famille, bah, c'est déjà l'essentiel parce qu'elle prend confiance en elle quand elle est avec vous, dans ses expériences. Dans ce qu'elle fait, en fait, c'est tout ce qu'on peut, tout ce qui va donner confiance à notre enfant dans ses expériences du quotidien, dans la façon dont il peut s'exercer tout seul aussi. Si, imaginons un tout petit enfant qui a envie de manger lui aussi, de prendre la cuillère pour essayer de manger tout seul, eh bien, on peut continuer à le faire manger et puis lui proposer aussi d'avoir sa cuillère et ce sont nos réactions, vous voyez. Donc, avec ses maladresses, il va probablement la première fois que l'enfant utilise une cuillère renverser la purée. Ou donc, ce sont nos réactions qui vont ne pas inquiéter l'enfant. C'est-à-dire, c'est normal d'être maladroit quand on commence à faire quelque chose. Et donc, banaliser, vous voyez, c'est pas grave. Bon, en général, il en aura mis un petit peu sur son bavoir ou un petit peu sur la table, mais ce sont des choses sans gravité qu'on va pouvoir nettoyer. Et en fait, du coup, l'enfant, ça lui permet de progressivement de continuer à s'exercer. Parce que si tout de suite, quand il fait quelque chose, il faut que ça soit bien fait, eh bien, il va renoncer ou ça va le rendre malheureux. S'il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas tout de suite et que de rater, c'est grave. Ou c'est dommage, ou c'est pas bien, eh bien, il peut renoncer à essayer. Ou, enfin, comment dire, est-ce que tu as d'autres idées, toi, Suzanne,
Oui, non,
d'autres
mais
exemples comme ça?
pour aller dans ton sens, en fait, je pense l'encourager dans ses expériences, quelles qu'elles soient. Hein. C'est vrai qu'à 3 ans, je sais pas, les enfants, ils ont tendance à ouvrir les placards, à faire ce genre de choses. L'idée, comme tu disais, Marilène, c'est pas forcément de dire non, c'est pas bien, mais en tout cas de les encourager dans ce chemin et peut-être adapter. Alors, je sais pas, Marilène, peut-être que tu as adapté.
L'environnement.
L'environnement, de manière à ce que l'enfant puisse faire ses expériences aussi.
Alors c'est vrai qu'on n'aura pas envie qu'il ouvre toutes les portes du placard pour sortir tout
C'est
ce qu'il y a à la
sûr.
maison. À chacun de voir ce que vous pouvez aussi décider que il ne le fait pas ça, mais encourager ses expériences motrices d'une autre manière. Mais de penser en tout cas que l'enfant apprend le monde et développe son intelligence par sa motricité, sa sensorialité. Donc c'est vrai que de s'exercer à manipuler des objets, quand vous faites la cuisine, il peut y avoir sa petite vaisselle à lui à côté, sur sa chaise, une chaise à hauteur de la table, et ce qui fait qu'il peut à côté de vous aussi faire quelque chose, qui ressemble à des gestes de cuisine. Vraiment lui permettre en tout cas d'exercer de faire des expériences, de faire des expériences. Sans être se sentir jugé, en tout cas, de manière négative quand il n'y arrive pas ou quand il rate quelque chose, pour qu'il puisse continuer à avoir envie de s'exercer jusqu'à temps qu'il y arrive, en fait.
Rater quelque chose, ça me fait penser, tu en as
Ouais.
parlé un petit peu, à tout ce qui est erreur, etc.
Oui.
Enfin, voilà,
Oui.
encourager et dire qu'on a le droit de se tromper, que c'est pas
C'est normal
grave, que
de se
c'est
tromper quand on
normal.
apprend.
Voilà, tout ça.
Oui. C'est vrai que
J'aime
ça, ce
beaucoup.
sont vraiment. Oui, tu as raison, Suzanne. Se tromper quand on apprend, c'est absolument même indispensable. Parce qu'à chaque fois qu'on répète, on répète. C'est comme ça qu'on mémorise les bons gestes, les bonnes réponses après aussi. Hein, lorsque compter sur les doigts, par exemple. Quand on interdit à un enfant de compter sur ses doigts, ce n'est pas une bonne idée du tout. Parce qu'un enfant qui compte sur ses doigts, il a moins de risques de faire des erreurs. Et du coup, il va mémoriser les bonnes réponses. Donc, c'est une pratique qui est vraiment excellente pour mémoriser du calcul mental et être de plus en plus habile. Pour le fait de vivre en groupe, on n'est pas tous équivalents sur le plaisir à être en collectivité. Même des adultes ou des enfants plus grands, des adolescents, tout le monde n'apprécie pas la vie collective, la vie en communauté. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un petit cercle plus intime d'amis, d'autres qui peuvent jouer plus facilement dans des groupes et s'affirmer ou être plus à l'aise, mais c'est pas forcément un objectif à atteindre. On peut avoir aussi des préférences tout en étant, en ayant une bonne estime de soi, mais en préférant être dans des cercles plus restreints d'amis.
La question de Caroline, ça me fait penser,
Oui.
c'est vrai que quand on est en collectivité, avec la
Ouais.
famille ou autre, et quand on a notre petit enfant, bien souvent, on est là, encourage, allez,
Oui.
dis bonjour, allez, on
Ah
encourage. Ben
oui.
voilà. Alors, c'est vrai que parfois,
Ouais, c'est ça.
on est un peu frustré et on
Et
voudrait que notre enfant.
elle se referme comme une coquille. Ouais, elle se referme dans sa
Voilà.
coquille.
Ouais. Alors, ça, peut-être qu'il faut le respecter, ça. Enfin,
Moi, je pense que
Marie-Lève,
quand elle
je.
est petite comme ça, je pense que c'est à respecter. Et peut-être qu'elle ne se renferme pas dans sa coquille, mais qu'elle observe. Et on développe aussi son intelligence en observant. C'est difficile d'interagir déjà avec des adultes quand on est petit. Et puis, il y a des enfants qui prennent beaucoup de place. C'est peut-être le cas dans sa crèche quand elle arrive. Donc, pour elle, c'est plus facile de les observer et de savoir de cette manière-là quelle place elle va prendre dans le groupe. Ils mesurent
Elle
leur
observe
force
beau, ouais, elle
physique.
observe beaucoup les autres,
Voilà, donc elle n'est pas renfermée, elle observe et ce qui lui permet après de s'adapter, de s'ajuster, de voir la place qu'elle veut prendre dans le groupe, de quelle manière.
ouais, c'est pas évident quand on est en groupe. Parce que du coup,
Oui.
alors après, c'est un autre sujet, mais quand
Oui.
même, je sais pas pour vous, Caroline, et même pour les autres, mais c'est vrai que peut-être. Ces parents qui sont un peu, qui se sentent jugés peut-être quand on voit l'enfant qui n'y va pas, qui n'ose pas, peut-être qu'on a peur du regard des autres. C'est peut-être plus ça qui se joue. Je sais pas, hein, c'est peut-être là que
C'est vrai
je.
que ça participe quand on voit chacun voit ses propres enfants faire une chose ou une autre. C'est vrai que être assez à l'aise soi-même en disant que ce n'est pas vos compétences parentales qui sont évaluées en même temps qu'on regarde votre enfant. Même si certaines personnes peut-être pourraient le faire, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Ça ne remet pas en question la présence des parents, la façon dont ils répondent à leur enfant, ce que l'enfant en fait ou n'en fait pas. Puis aussi pour votre petite fille de 3 ans, elle vous dit qu'elle vient d'avoir un petit frère, donc ce n'est pas non plus pour l'instant peut-être le meilleur moment de sa vie. plus tard, elle sera sans doute contente d'avoir ce petit frère, d'avoir son frère avec qui elle pourra développer une complicité, etc. Mais pour l'instant, peut-être qu'elle est plutôt dans un questionnement de tiens, comment ça se fait que papa et maman. Et quelle idée saugrenue d'avoir eu envie d'avoir un autre enfant que moi. Je n'étais pas
Peut-être.
si formidable alors qu'ils aient besoin d'avoir un autre bébé. Enfin, il y a toutes ces questions que se posent les enfants, surtout les premiers, à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et qu'après, il faut un petit peu de temps pour être conforté dans l'idée qu'on compte toujours pour ses parents et qu'on est important, très important. En fait, c'est vraiment cette idée qu'on est très important pour nos parents, qui est vraiment la pierre hein, de l'édifice, quoi, les fondations de mon estime de moi. Je sens, et c'est-à-dire les soins, voilà, les soins parentaux, pas du tout des soins parfaits, parce que ça, c'est pas bien non plus. Quand on répond trop vite à la demande de besoin de nos enfants, on intervient trop tôt parce qu'il faut qu'ils mangent à telle heure, parce qu'il faut qu'ils dorment tant d'heures, que là c'est l'heure de coucher. Quand on n'est pas suffisamment ajusté aux signes que les enfants nous envoient, les petits nous envoient, eh bien, ça leur permet pas de nous appeler et de nous demander, tiens, j'ai faim ou tiens, j'ai sommeil. Ou... Et petit à petit, lorsque l'on répond aux besoins de nos enfants de manière ajustée, ben, ils apprennent eux-mêmes à développer l'idée qu'ils sont capables de quelque chose, capables d'interagir avec nous, les adultes, les parents, et que quand ils pleurent ou quand ils nous appellent, ou, eh bien, ils ont un sentiment de compétence, justement. Et ça participe, ça aussi, à construire l'estime de soi quand on est un bébé, hein. Évidemment, on n'a pas encore la pensée, mais c'est le tout début, la première expérience que... On compte, qu'on est important, qu'on existe et qu'il y a quelqu'un qui nous répond quand on en a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être?
Bonjour, j'espère vous
Bonjour
m'entendez.
Cécile.
Oui, bonjour.
Oui.
Voilà, je me permets en fait de rebondir. En fait, on est exactement dans la même situation, sauf que nous, notre fils, il va à l'école. Il est en première année de maternelle. Et
Oui.
du coup, j'ai eu dernièrement l'entretien avec la maîtresse et elle me dit qu'elle est un peu bloquée puisque elle ne peut pas, elle se rend pas compte en fait de l'évolution qu'il a. Nous, on s'en rend compte parce qu'à la maison, il s'exprime, il participe à énormément de choses, il parle beaucoup plus. Mais en fait, à l'école, il est pareil, il est complètement fermé. Et surtout en classe, en fait, il est complètement fermé et il ne tient absolument pas à être en contact avec les autres enfants.
Quel âge il a,
Et
votre petit
il a 4 ans.
Ouais.
Il a 4 ans et... Alors, c'est comme ça depuis la rentrée scolaire, en fait, hein, et encore à l'heure actuelle, il est comme ça. En garderie, ça se passe très, très bien. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils sont plus petits groupes, mais à
Oui.
l'école, en effet, ils s'isolent et quand il a envie, il va participer, mais quand il n'a pas envie, il s'isole.
Oui. Et est-ce qu'il a des frères et des sœurs aussi, votre
Il a une
garçon?
grande sœur, ouais. Il a une grande sœur qui est tout le contraire, qui est très très sociable, qui va très facilement vers les autres et ouais, qui est vraiment tout le contraire en fait.
Elle a quel âge?
Elle a 7 ans.
D'accord. Après, qu'est-ce qu'il en dit, votre garçon, comment il vit les choses, le fait d'aller à l'école,
Ah ben
ça compte
il
aussi, comment
En
il
fait,
se sent?
il les vit pas bien du tout. Il les vit pas bien du tout, puisque nous, il nous exprime clairement qu'il ne veut pas aller à l'école.
Ben oui, donc et il vous dit pourquoi? C'est
Non,
intéressant,
ça,
très
par contre, il ne nous
particulier.
le dit pas. Nous, dans notre ressenti, c'est vrai qu'on a plus ce sentiment où l'effet de groupe, il n'est pas à l'aise du tout, en fait.
Oui, mais peut-être que sa maîtresse ne le met pas à l'aise non plus, en fait. Je ne sais pas, hein, on ne va pas accuser un
Oui.
professionnel ou un autre, mais l'incompréhension peut faire que, bah, oui, peut-être que votre petit garçon, il ne se sent pas compris et que le groupe, c'est impressionnant, ça c'est normal. Et que pour être à l'aise dans un groupe, on va avoir besoin de se sentir soutenu par l'adulte qui gère ce groupe-là.
Alors, en fait,
J'imagine
c'est
qu'il y a
voilà.
une aide aussi maternelle.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on en a discuté à plusieurs reprises. On a fait énormément de démarches pour justement essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, avec nous, il est très à l'aise. Enfin, il est curieux, il est à l'aise. Enfin, il s'intéresse à énormément de choses. Mais en effet, à l'école, le fait du groupe, on sent tout de suite qu'il se referme. Et à tel point que pour l'emmener, on est obligé de le porter.
Ouais, moi je pense qu'il y a, c'est pas que le groupe, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui à l'école, c'est pas que le groupe. Ouais, là c'est autre chose parce que je pense que votre garçon, s'il est bien à la maison, dans la famille, même en général, avec peut-être des cousins, des cousines ou des voisins, il faut voir
Alors,
dans
il lui
son
faut
ensemble
toujours,
comment il se
en fait, il lui
comporte.
faut toujours un temps d'adaptation. Il lui faut toujours un temps d'adaptation. Ça, c'est vrai que quand il rencontre des personnes, il a toujours besoin d'un temps d'adaptation. Mais après, oui, après, enfin, ça va. C'est vrai qu'il met du temps. Quand il rencontre des gens, il met du temps. Il a vraiment besoin d'observer, de regarder ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, il se met à l'aise. Après, c'est vrai que quand il y a sa sœur, c'est beaucoup plus facile.
Oui, parce qu'elle, elle fait le déblayage de rentrer en contact
Voilà,
et.
tout à fait. Tout à fait. Après, à
Après,
l'école,
c'est.
d'après ce que j'ai pu comprendre, ça se passe très bien. Quand il veut participer aux activités, ça se passe très bien. On m'explique bien qu'il est curieux et qu'il est intelligent, hein, parce que bon, il participe, enfin voilà, quand il est décidé, il participe très bien, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise.
Moi,
Oui.
je me permets, tout simplement, je me demande, est-ce que c'est pas simplement laisser le temps d'adaptation, d'adapter aux enfants? C'est vrai que là, les adultes, quand les enfants rentrent à l'école, même à la crèche, on est, je ne sais pas comment dire, on est dans une attente forcément, il faut que les enfants soient comme ça, et que s'ils ne sont pas comme ça, et ben, ils ne sont pas dans le moule, et puis ça pose problème. Et moi, je me dis. À cet âge-là, à 3 ans, 4 ans, ils n'ont peut-être pas le même rythme. Des fois, je ne sais pas, hein, je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais peut-être qu'il faut peut-être plus de temps à certains enfants pour s'adapter au groupe. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. On a cette volonté de vouloir que tous les enfants soient à un moment bien
Épanoui dans le groupe,
épanouis dans le groupe tout de suite. Voilà,
Il y a
peut-être
plusieurs
que notre
choses.
temps à nous, ce n'est pas le temps des enfants aussi.
Ah bah c'est
Peut-être que
sûr.
ça prend plus de temps pour certains enfants et que on n'est peut-être pas obligé de poser des étiquettes tout de suite. Je ne sais pas, je
Déjà, il y a
m'interroge.
plusieurs choses. Déjà, notre temps à nous n'est certainement pas le temps des enfants. Ça, c'est sûr que pas du tout. Des enfants peuvent ne pas se plaire en groupe et avoir une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pas la même chose. Pas parce qu'un enfant n'est pas affirmé dans un groupe qu'il n'a pas une bonne estime de lui-même, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que votre enfant, il y a autre chose qui le gêne dans le fait de ne pas avoir envie d'aller à l'école. Il y a quelque chose qui ne le rend pas heureux à l'école, pas content. Il faudrait savoir quoi, ce que c'est.
D'accord.
Peut-être que ça ira mieux l'année prochaine avec une autre maîtresse. Est-ce qu'il y a des enfants qui l'embêtent à l'école? Comment est-ce qu'ils se sont compris, pas compris? Enfin, c'est tout ça, en fait. Vraiment plusieurs choses, plusieurs éléments. Et qu'on soit un enfant, un petit enfant, un ado, un adulte, il y a je répète qu'il y a vraiment des personnes, le groupe, ça ne les intéresse pas, ça ne leur plaît pas. Et donc, ils ne vont pas avoir envie de s'affirmer en groupe. Ce n'est pas leur lieu d'expression. Et ça ne veut pas
D'accord.
dire qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux, qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont plus discrets, plus réservés. Et d'autres sont plus extravertis en groupe. Ça, c'est vraiment un type de personnalité. Ça ne révèle rien de l'estime de soi. Il y a des personnes très extraverties qui ont l'air très à l'aise et qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. C'est vraiment dissocié. Ouais.
D'accord.
Une nouvelle personne qui est arrivée. Bonjour, Wim. Est-ce qu'il y a d'autres
Bonjour, Joyce.
questionnements?
Désolée, je suis en retard.
Je vous en prie. Oui. Vous vouliez intervenir, Philippe? Vous vouliez dire quelque chose?
Non, non, c'était juste pour dire bonjour en fait. Moi, j'ai jamais assisté à ce genre de réunion, donc pour moi aussi, c'était aussi par curiosité pour savoir sur quoi on pouvait discuter et quels les thèmes d'échange en fait qui se faisaient pendant ce genre de réunion.
c'est intéressant quand on parle de l'estime de soi de nos enfants, de s'interroger chacun sur notre propre estime de soi en tant qu'adulte, c'est-à-dire comment on est capable nous-mêmes de respecter nos propres besoins, d'être, est-ce qu'on est nous-mêmes en équilibre ou en accord, je ne sais pas comment dire, en harmonie, c'est un petit peu exagéré peut-être, mais plus ou moins en tout cas en équilibre, oui, avec un certain respect suffisant de nos propres besoins, de ce que l'on est. Parce qu'être capable de se respecter soi-même ou de respecter ce dont on a besoin, ça va retentir sur ce que l'on va attendre de nos enfants, exiger d'eux, ce qui va... Voilà, et donc être en phase aussi avec ses propres émotions, ses propres ressentis, quand on a peur, quand on a mal, quand on est triste ou en colère ou content, et de le partager, enfin... quand on est content de le partager, de le témoigner, et quand on est triste ou qu'on a peur ou qu'on est en colère, vous voyez, toutes ces émotions qui ne sont pas très agréables à ressentir mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles nous disent des choses de ce que l'on vit, sont des signaux, et quand on en tient compte, eh ben, on commence déjà là à respecter des choses de nous, et donc cette capacité-là, elle est très importante aussi parce qu'elle va nous permettre aussi de respecter les besoins de nos enfants sur leur rythme, sur quand ils ont peur ou de quelque chose ou quand ils ont mal. Et je prends un petit exemple à propos de la douleur. Un enfant tombe et pleure. Ou, voilà. Alors, si on lui dit tout de suite « mais c'est rien, pleure pas, c'est rien », je comprends l'idée de ne pas l'inquiéter, mais... c'est pas grave, on n'en sait rien en fait, on n'est pas à sa place. La meilleure façon de renforcer justement l'estime de quelqu'un qu'il pourrait avoir lui-même, c'est de venir voir, oh, qu'est-ce qui t'arrive? On ne va pas dramatiser, on ne va pas avoir peur de façon exagérée, mais on va aller voir, on va montre, on va regarder, viens, on va regarder s'il faut pour nettoyer, pour aller voir de près ce qui s'est passé. Et tout de suite, ça va rassurer. C'est-à-dire, on n'est pas sur l'idée d'aller exagérer ou de faire peur à l'enfant, mais au contraire, de le rassurer. On a vu qu'il lui arrive quelque chose. Peut-être il a mal. C'est lui qui va nous le dire. On n'est pas dans sa tête, ni dans son corps. On ne sait pas à sa place. Parce qu'il pleure peut-être parce qu'il a eu peur aussi en tombant. Et donc, en venant le voir, qu'est-ce qu'il a, c'est une manière de le rassurer, et donc il va apprendre, il va s'apaiser tout seul en fait, de lui-même, parce qu'il sera rassuré par votre présence, par votre attention.
Oui, l'idée c'est ça, c'est pas nier en tout cas.
Oui, oui, qu'il se passe quelque chose, oui. Ou quand, je sais pas, on pense souvent sur l'estime de soi des enfants, quand ils font des expériences, quand ils sont un peu plus grands ou qu'ils ratent des choses, ou de leur, on peut questionner avec eux quand un truc n'est pas très réussi. Est-ce que tu sais pourquoi t'as loupé ou t'as pas réussi ce truc-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est à l'école, ben, est-ce que c'est parce que tu crois que t'avais pas assez travaillé? Sans dramatiser, tu vois, t'as pas bossé, ben voilà, t'avais qu'à travailler plus, je te l'avais dit, gna gna gna. Voilà, ça c'est... Du coup, l'enfant, au lieu de se remettre en question, il va être en colère après vous. Déjà, il est déçu, donc, parce qu'il n'a pas réussi à avoir sa bonne note. Bref, alors, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas réussi là où... Est-ce que tu sais sur quoi tu t'es trompé? Est-ce qu'il fallait que tu apprennes plus? Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose que tu n'avais pas compris à la base? Enfin, dans une démarche constructive face à quelque chose qui est raté, un échec. Qui rentrent en fait les choses pas réussies, elles rentrent dans les apprentissages, elles font partie des choses que l'on apprend. Et la confiance en fait que nous-mêmes on va avoir dans les ressources de nos enfants pour réparer leurs erreurs, pourquoi d'autre en fait, la confiance qu'on a qu'ils vont être, qu'ils ont des tas de ressources pour faire les choses. Même s'ils n'y arrivent pas, le fait qu'on ait confiance en eux va leur donner aussi l'image. On renvoie ce truc-là qu'on a confiance en leurs ressources. Donc, eux, ils vont s'approprier ce qu'on leur renvoie d'eux-mêmes.
des questions, des réactions par rapport à tout ça, d'autres choses?
J'ai une question, en fait. Quand on a un enfant qui a peur de tout et que ça se passe, en général, ça se passe dès qu'il y a quelque chose, on va dire, de nouveau, ça se passe très mal, dans le sens où elle va commencer à pleurer. Elle a 2 ans et demi. Elle va commencer à pleurer, elle va commencer à faire toute une scène et ça va prendre beaucoup de temps, en tout cas, pour qu'elle soit confiante sur ce point-là. Est-ce qu'il y a une manière de faire ou pour dépasser en fait cette étape-là? Je parle par exemple, ça fait depuis qu'elle est née, on va dire que les chiens ou autres, elle a super peur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dès qu'elle voit un chien à n'importe quelle distance, elle commence à pleurer et à faire toute une crise, quoi, parce qu'elle n'arrive pas forcément à se dire, voilà, il est loin, c'est pas un souci, quoi, à minima. N'en parlons pas quand il est juste à côté. Hein.
Déjà, la chose la plus importante, c'est de la rassurer absolument et soit de la prendre dans les bras pour lui dire ne t'inquiète pas, on est là pour te protéger. On est là. Regarde, on va observer ce chien même de loin. On va regarder ce qu'il fait. Vous voyez, des paroles comme ça sur remettre de la réalité. Un chien, parce que c'est vrai que c'est imprévisible, un chien, on ne sait pas. Déjà, quand un chien aboie, le son pour dans les oreilles d'un petit enfant, ça peut faire peur, ça surprend. Donc, c'est la surprise qui peut faire peur. Ça bouge assez vite. Si ça se trouve, elle s'est fait bousculer quand elle était petite par un chien qui a voulu jouer ou qui a sauté, puis elle n'a pas su ce qui allait se passer. Donc, elle est très petite encore à 2 ans et demi. Il faut savoir que souvent les enfants on les croit plus grands qu'ils ne sont, alors ils sont à la fois très intelligents même quand ils sont très très jeunes, mais ils sont petits, et donc un animal comme un chien, ça fait peur parce que c'est imprévisible, c'est dans ce sens là donc pour l'instant ce qui peut lui faire du bien à votre petite fille, c'est de la rassurer et de ne pas se moquer d'elle parce qu'elle a peur, parce que c'est rien, et de lui dire je ne sais pas, de toute façon vous ne lui dites pas ça, mais comme même à des enfants plus grands, parfois on lui dit oh, t'es un bébé, tu pleures comme un bébé, ou t'as peur comme un grand bébé, qu'est-ce que tu prends d'avoir peur de ça? Non, mais j'imagine que vous ne lui dites pas ça.
Je ne fais pas ça.
On entend mais parfois ces paroles. Et ça n'aide pas, voilà. C'est des choses qu'on évite, parce que l'idée, c'est qu'elle reprenne confiance en elle, et ce qui va l'aider à avoir confiance, c'est de sentir que vous la protégez, qu'elle est protégée par son papa et sa maman. Et de toute façon, elle va grandir, donc elle va pouvoir elle-même, après, faire l'expérience qu'elle peut se protéger, qu'elle peut se mettre à l'abri quand un chien arrive. Elle va découvrir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le côté imprévisible des événements peut inquiéter votre petite fille. Et ce n'est pas anormal. Parce que les enfants sont très conservateurs. Et plus ils sont petits, c'est-à-dire... faut penser qu'un bébé et un tout petit enfant est complètement dépendant de ses parents. Ils sont totalement dépendants de nous. Ils ne peuvent rien faire sans nous. Donc, la vie est inquiétante quand on se sent comme ça, complètement dépendant. Et ce qui peut nous faire du bien, c'est de savoir que justement, on peut compter sur les gens qui sont à nos côtés. Qu'est-ce qui nous sert de repère? Les parents, la protection des parents, la routine. Ça, c'est un repère aussi. Et la routine, l'air de rien, ça fait partie des choses qui nous donnent confiance, qui nous créent un sentiment de sécurité, que les choses se répètent. Parce que du coup, la routine dans le temps, dans le déroulement de la journée, je sais que quand je me réveille le matin, il va se passer ça. Il y a papa ou maman qui m'emmène à la crèche ou à l'école. Après, il se passe ça à l'école. C'est le repas, la sieste, on rentre à la maison. Enfin, tout ce qui est routine comme ça est très rassurant pour les enfants, parce qu'au moins, ils ont une capacité là-dessus d'anticiper ce qui va se passer après. Quand il y a trop d'imprévus dans la vie d'un enfant, c'est inquiétant. Ça peut le mettre dans un petit état d'inquiétude et d'incertitude. Et donc, tout ce qu'on peut créer autour de l'enfant, peut-être pour votre petite fille aussi, Rime, qui serait sécurisant pour elle, rassurant en termes de repères, et d'être plus ajustée à ses besoins, à sa personnalité, et bien, plus ça va être comme ça, plus ça va la rassurer. Ne pas imaginer qu'à 2 ans et demi, elle devrait savoir faire ci, faire ça. Je ne sais pas comment c'est, mais tout, ne pas anticiper, oui, sur les compétences
Elle est grande
des enfants.
maintenant.
Comment?
Elle est grande maintenant, c'est bon. Elle va rentrer à la fac prochainement. Non mais j'ai rigolé dans le sens où c'est vrai que des fois en fait j'oublie que elle est encore toute petite quoi. C'est pas forcément. Elle a encore besoin de d'être rassurée énormément. Mais surtout sur quelques aspects, je vois que
Oui.
c'est-à-dire même si j'essaie de la rassurer, c'est pas j'y arrive pas forcément quoi. Et je vois par exemple pour ce point-là par exemple avec les chiens et tout, ça prend énormément de temps. C'est vraiment le des fois elle fait pas très attention et là je me dis ah bah elle commence enfin à s'habituer aux chiens et tout. Mais des fois quand elle fait attention à qu'il y a un chien à côté, c'est la terreur quoi.
Ouais. Après, voilà, de voir dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qui la rassure, quels sont ses repères à elle, voyez, dans la vie avec ses parents, là où elle est gardée, quels sont tous ses repères. C'est travailler là-dessus qui va faire qu'un jour, elle n'aura plus peur des chiens, la tranquilliser au maximum sur tout le reste, quoi.
Et continuer à l'accompagner. C'est vrai que, par rapport à ce que disait Eric, des fois en tant que parent, on essaye autant que possible d'avoir les bons gestes, les bonnes paroles. Et des fois, on a vraiment l'impression que c'est vain. On a
Oui.
l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais une fois, il y a une professionnelle qui m'avait dit, mais ne vous inquiétez pas parce que ça fait son chemin dans leur tête et que ça va porter ses fruits. Et j'avais envie de dire ça quand même. Et de dire que c'est pas et qu'il faut continuer et que ça porte ses fruits. Même si nous, on aimerait toujours, enfin les parents aimeraient toujours que ce soit, que
Mais
les résultats soient
quand les
immédiats,
enfants
que.
sont petits, c'est pas la peine de trop discuter sur le
Non.
chien, de lui expliquer qu'il est loin. Il n'y a pas
D'accueillir,
besoin
d'accueillir
d'expliquer
le
tout
chien.
ça. On peut juste dire, voilà, je vois que tu as peur quand il y a un chien. Viens, t'inquiète pas, je suis là, je te protège. Et on le prend dans ses bras. C'est tout. C'est ça la confiance en soi. Voilà, maman est là, elle me protège. Et ben, ça veut dire que après, moi, quand je vais grandir, je serai capable de me protéger tout seul. Au lieu de la forcer à ne pas avoir peur des chiens. Vous voyez? C'est renforcer d'abord son sentiment de sécurité. Le fait que vous allez la protéger, quoi qu'il en soit, de manière. Voilà, elle demande ça. Protège-moi, maman ou papa, quand j'ai peur, quand il y a un chien. Ben oui, bien sûr, qu'on va te protéger bien. Ça, vous voyez, tout ce qui on renforce comme ça fait pas des enfants peureux, bien au contraire. Quand un enfant est rassasié sur quelque chose, qu'il a eu son compte de son sentiment de protection, c'est là qu'il va partir à l'exploration. C'est comme une nourriture, en fait, ce besoin de protection. Tant qu'on n'est pas rassasié, eh bien, on va
On
continuer
est
à
un
en
peu.
demander. Madame le père, que je ne sais pas si vous voulez intervenir aussi
Oui, j'allais
sur
intervenir justement. En fait, je suis le papa
l'enfant.
du petit garçon de 4 ans dont on vient de parler. C'était ma femme qui a introduit
C'est
un
le
petit peu
père, oui,
le
pardon.
problème. Oui.
Oui.
Et alors, si j'ai bien compris ce que vous disiez, il n'y a pas forcément de lien entre l'estime de soi et la sociabilité d'un enfant, sa capacité à
Absolument.
interagir. Pour le cas qu'on vit, que ma femme nous a un petit peu décrit, ça se situe à l'école, ça se situe aussi un petit peu en dehors, et je le vois notamment, par exemple, quand on va dans un parc de jeux où il y a d'autres enfants. Il reste souvent un petit peu interdit quand il est sollicité par d'autres enfants de son âge. Et moi, il me dit clairement qu'il ne veut pas jouer avec d'autres enfants, même quand il est sollicité. Je ne sais pas, ma femme non plus, on ne sait pas trop si c'est dû à une peur de l'extérieur ou à un manque de confiance en lui. Ça se passe très bien vis-à-vis de sa sœur. Il y a des choses qui se décantent. Ça commence à se décanter depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, avec les oncles et tantes. Ça n'a pas toujours été forcément rapide. Mais véritablement, il n'est à l'aise que dans son petit cocon familial. Mmh. Maman, papa, grande-sœur. Il y avait la nourrice, ça se passait bien. Mais ça dépasse aussi un peu le cadre de l'école. Il se passe peut-être aussi des choses à l'école, parce que c'est une classe assez nombreuse, il y a beaucoup de bruit. Je n'aime peut-être pas quand ça bouge autant quand il y a du bruit. Mais même parfois, je le vois quand il est sollicité pour jouer par un enfant qu'il ne connaît pas, et bien là, il se tétanise un petit peu.
Mais et oui, je sais pas si...
Oui, excusez-moi. Je vous écoute.
Non, non, posez votre question.
Et je ne sais pas si c'est un sentiment d'insécurité quand il est hors du radar de papa-maman ou si c'est un manque de confiance en lui et qu'il se demande ce qu'on va penser de moi.
En fait, il n'a pas l'air d'avoir un manque de confiance en lui, votre enfant, puisqu'il se développe et quand il est avec vous, dans sa famille, il est épanoui. Donc, mais par contre, peut-être que oui, il a un sentiment d'insécurité dans un groupe d'enfants. Parce que ça, c'est sa première année d'école.
Oui, mais je veux dire, ça, on le voyait déjà poindre dans des beaucoup plus petits comités en extérieur quand il rencontrait d'autres enfants. Ouais. Où là, il y avait zéro interaction parce qu'il ne voulait pas du tout interagir. Bien sûr, peut-être que l'école, c'est un cadre différent. Il semblerait aussi qu'il se soit passé certaines petites choses avec la maîtresse.
Après, voilà, je ne sais pas comment... C'est vrai que ça, une maîtresse a la capacité, le pouvoir, en tout cas, d'aider les enfants à se sentir bien dans la classe, en respectant aussi leur tempérament, leur...
Oui, mais de toute façon, on ne pourra pas faire de miracle. Ils sont une vingtaine d'enfants, elle est toute seule. Je ne pense pas qu'elle puisse faire de miracle, malheureusement. Mais j'arrive pas à discriminer vraiment si c'est un problème d'insécurité ou de manque de confiance.
Alors, je vais vous demander juste un petit instant parce que ma collègue doit s'en aller, doit nous quitter. Je ne sais pas parce qu'on a des choses à partager avec vous, des documents.
D'accord.
Et tout à l'heure, je pourrais vous mettre sur l'écran partagé donc, des sites utiles. Voilà. Et donc, du coup, je les ouvrirai, ceux-là.
Alors, voilà.
Voilà.
Décoche celui-ci. Excusez-nous. Décoche celui-ci, je pense. C'est pas la ferme.
Je ne sais pas où sont nos documents.
J'ai ouvert.
D'accord. Voilà. Ça. Et après, on va chercher le document.
Normalement, il est ouvert.
Oui,
il y en a un qui se sort. Celui-ci.
On peut le mettre en attendant qu'on parle. Vous voyez un petit peu, comme ça vous avez... les liens déjà qui sont là, et puis je passerai à la diapositive suivante, je vais laisser comme ça. Ça va pour tout le monde, vous m'entendez? Je vais répondre à Monsieur Le Père qu'en fait.
Oui, je vous entends.
Ok, et, oui, et donc, sur votre enfant, donc peut-être qu'il a, il faut attendre, peut-être qu'il grandisse un peu pour savoir si... en étant un peu plus grand, il peut développer une amitié ou une autre, des liens d'amitié avec des enfants de son école, de sa classe, déjà peut-être l'année prochaine, de voir si petit à petit, il commence développer des liens d'amitié. Il était gardé où avant, en fait? Il était où avant de rentrer à l'école? Avec qui? Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
On a une coupure de connexion. Oui, vous entendez plus du tout. Je vous voyais plus. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas.
Non, ça marche.
Ouais, ça remarche là, oui.
Ouais.
Donc, Monsieur Le Perque, je sais plus. Oui. Vous disiez quelque chose?
Non, je n'étais resté entre la connexion entre sociabilité et estime de soi.
Mais sur lui, quand il était plus petit, là, il était gardé où avant d'aller à l'école, votre enfant, dans ses expériences?
Il était en nourrice.
Ouais.
C'est aussi ce qu'on appelle avec ma femme un enfant Covid. C'est-à-dire qu'en nourrice, il a subi les confinements et donc...
C'est vrai.
On l'a gardé avec nous pendant de très longs mois, avec des interdictions de sortir. Et ensuite, quand il a pu retourner en nourrice, il n'a pas eu accès à ce que des services comme le relais des assistantes maternelles peuvent proposer, par exemple des rencontres avec d'autres enfants autour de petits ateliers dans les locaux de la RAM. Donc, c'est vrai qu'il a été un petit peu balancé à l'école comme ça, sans parachute. Ça n'a pas été le cas de sa sœur. Oui. Est-ce que tout ça, c'est lié? Je sais pas.
Certainement que ça joue et que ça participe à ces expériences, justement, d'être dehors, sans compter que nous-mêmes, ces deux années là, d'avoir été assez en repli, finalement, ce n'est pas évident du tout. Hein. Les petits ont une autre expérience, ils ont vécu beaucoup plus dans des cercles familiaux plus resserrés.
Tout à fait.
Moi, je pense que c'est bien d'attendre un peu qu'il prenne de l'aisance en lui permettant d'aller à son rythme dans cette sociabilité, comme on dit, et de lui donner le temps d'explorer ses liens d'amitié, déjà de découvrir les autres enfants autour de lui et de choisir après vers qui il aura envie d'aller pour développer des liens d'amitié. D'ici la grande section. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres marques? Je regarde mon petit document pour voir si je peux partager des choses avec vous sur ce sujet. Je vous donne quelques petites idées un petit peu en général que l'on partage comme ça. Donc, sur l'envie de prendre des risques et quand on peut se donner droit à l'erreur, c'est vrai qu'on est plus, on ose davantage de choses. Est-ce que on peut se questionner aussi, est-ce que je permets à mon enfant de ressentir ses propres émotions, d'avoir accès à ses émotions, est-ce qu'il a le droit de les exprimer? Exemple, un enfant, on va faire du manège, un petit tour de manège, et puis finalement, on lui avait dit par exemple qu'on rentrait après deux tours ou trois tours de manège, et il est déçu, c'est la fin du manège, il est déçu, et donc il pleure parce qu'il n'est pas content. Donc, quand l'enfant est petit, quand je dis petit, c'est même jusqu'à 4 ans, on ne va pas lui faire... une conférence sur le fait une argumentation, peut-être pas une conférence, mais un développé d'arguments sur le fait qu'on l'avait bien prévenu, qu'on faisait que deux ou trois tours et que maintenant c'est fini. On lui dit ça une fois, mais on s'éternise pas sur les discussions de « mais je te l'avais bien dit », comme si justement le fait qu'on l'ait prévenu, on attendait de lui qu'il soit raisonnable et que donc ça veut dire comme si on était surpris qu'il soit mécontent. Et encore plus, qu'il n'ait pas le droit ou la possibilité, que ça n'est pas bien, en tout cas, d'exprimer son mécontentement en pleurant. Alors que si on est tranquille avec le fait qu'il pleure, oui, tu n'es pas content. C'est vrai que ce n'est pas rigolo d'arrêter le manège. Mais là, ça y est, on a fait les trois tours, on va rentrer. Et même s'il pleure, on le laisse un peu pleurer. Ce n'est pas, dramatique. L'enfant, quand il est petit, c'est la seule façon qu'il a de montrer qu'il n'est pas content. Et il a le droit de ne pas être content. C'est normal. Il y a des choses dans la vie qui ne nous rendent pas contents. Mais c'est difficile pour un petit enfant de se frustrer. Donc, la seule façon qu'il a d'apprendre à se frustrer, ben, c'est d'abord de pleurer, puis de se rendre compte au bout d'un moment que finalement, il est capable de passer à autre chose. Puisque probablement, sur le chemin du retour, on va voir quelque chose d'intéressant à regarder ou un petit morceau de pain à croquer, je ne sais pas, quelque chose qui va faire diversion. On va rentrer à la maison, il va penser à autre chose de toute façon. Moins on en rajoute, plus l'enfant s'aperçoit de lui-même qu'il est capable de passer à autre chose et que ça passe. Et alors que quand on attend des tout-petits qu'ils n'expriment pas leur mécontentement ou leur colère, c'est difficile pour eux. Et en plus de ça, non seulement c'était dur de se frustrer, d'arrêter de faire du manège, mais en plus, ils ont le sentiment peut-être de décevoir aussi leurs parents parce qu'on ne serait pas content après eux, parce qu'ils pleurent ou parce qu'ils font, je sais pas, une colère. Ou, voilà. On les accompagne d'autant mieux qu'on peut supporter aussi l'expression de leurs émotions. Souvent, on parle du contrôle, gérer ses émotions, contrôler ses émotions. Je fais une petite remarque là-dessus, j'en profite. Le cerveau humain donc, met beaucoup de temps à se développer. Et les connexions neurologiques, les circuits comme ça qui s'établissent par nos expériences font que l'on devient, en fait, on estime aujourd'hui par les recherches que la maturité d'un cerveau humain pour le contrôle des réactions émotionnelles arrive autour de 23-24 ans. Et donc, c'est long, c'est pas du tout tout de suite, c'est cette zone frontale et temporale où il y a toutes les parties qui sont en lien dans les émotions, dans la planification des tâches complexes, le fait d'être capable d'ajuster ses propres besoins, de les adapter à la réalité, de les différer, de tenir compte aussi des réactions de l'autre, tout ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle et sociale. Donc, ça vient à maturité assez tard. Or, quand on demande à un petit enfant, même à un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, de contrôler ses émotions, c'est très compliqué en réalité. C'est très difficile à faire. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, exploser sa colère et frapper tout le monde. On va devoir canaliser ça. Mais on a un sacré rôle en tant que parent pour apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions et en faire quelque chose. On va mettre des mots sur leurs émotions. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air triste ou là, je te vois, tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils puissent, après, au lieu de donner libre cours à cette pulsion-là de soit de pleurer ou de se mettre en colère et de taper, peut-être petit à petit en grandissant, d'expliquer. Et quand ils sont tout petits, ils vont seulement pleurer et on va être là pour les rassurer et dire « ne t'inquiète pas, on rentre, tout va bien ». Je parle beaucoup, peut-être ce serait mieux, plus intéressant pour vous de poser d'autres questions sur des exemples de la vie.
Je vais en profiter.
Oui.
Hein, Caroline, peut-être, je vais peut-être laisser l'autre intervenante parler.
Non, allez-y, je poserai ma question après.
D'accord, merci. Dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple effectivement de ma grande qui. Oui. Je la surveille, je la regarde faire et je vérifie que son travail scolaire, par exemple, est bien fait le soir. Ou même quand elle veut faire un dessin, quand elle a l'idée de faire quelque chose, il arrive assez souvent qu'elle n'y parvienne pas. Et là, elle se braque. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et là, on entre, j'ai essayé de discuter avec elle, mais on entre dans une conversation qui... J'arrive pas à sortir de la faire sortir de la boucle. Où elle considère qu'elle, de toute façon, elle est vouée à l'échec sur ce qu'elle est en train de faire. Et justement, je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle a le droit de se tromper, que ce n'est pas grave. Deux, qu'on ne réussit pas forcément du premier coup.
Oui.
crois que ça peut prendre du temps, mais je ne sais pas, je n'ai peut-être pas les bons mots, je n'ai peut-être pas la bonne méthode. Et c'est
Je
quelque
sais
chose que
pas.
je vois assez fréquemment.
Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison dans tout ce que vous lui dites. En fait, elle n'arrivera pas à quoi? C'est ça qui vous pouvez peut-être lui demander. Qu'est-ce que tu imaginais? Qu'est-ce que tu voulais faire et que tu n'arrives pas à faire? De lui demander concrètement, parce que pour voir un peu quel modèle elle s'était mis en tête de réaliser. Parce que si elle se met un truc qui est trop haut au-dessus de ses compétences d'enfant de 7 ans, c'est normal de ne pas y arriver. Il faut l'aider à revenir à une attente qui correspond à ce qu'elle pourrait faire elle. Parce qu'elle n'est pas en train d'imaginer de faire un truc parfait comme pour parce qu'elle voudrait vous épater, son papa, sa maman. Et que du coup, elle imagine devoir réussir à faire un truc tout de suite exceptionnel, mais juste parce qu'elle croit qu'elle doit vous épater. Vous voyez?
Oui, je vois.
Et que tout ce qu'elle fait, en vrai, sera bien. Même dans un dessin, justement. Qu'est-ce que tu voudrais faire en vrai? Comment ça, tu voulais faire quoi? Quand elle dit j'arriverai jamais, c'est quoi que tu voulais faire? Raconte-moi un peu. Ouais.
La méthode que j'ai employée, c'est... J'arrive pas à la faire sortir de la boucle. Donc, je vais donner un deuxième exemple. Elle a commencé à apprendre à écrire cette année, là, en CP.
Oui.
Et évidemment, un truc qui a bien marché, parce qu'au départ, j'ai eu droit au même scénario, je n'y arriverai jamais. Ça a pris du temps. Sur le coup, je ne savais pas comment réagir, comment lui redonner confiance, comment lui dire qu'il fallait continuer. Ça s'est fait un petit peu tout seul. Et puis au bout de quelques semaines, je l'ai vu, elle arrivait à écrire les modèles qu'il y avait dans son cahier. Et là, j'ai engagé une petite discussion avec elle. Dis donc, Suzanne, tu te souviens, il y a 3 semaines, un mois, là, tu m'avais dit que tu n'y arriverais jamais. Tu t'en souviens? Tu bloquais par rapport à ça? Mais oui, évidemment, peut-être que. Et donc, là, elle s'est rappelée un petit peu de tout ça. Elle a convenu finalement certaines choses peuvent prendre du temps. Alors, oui, évidemment, ça marche bien a posteriori, mais ça ne l'aide pas à se sentir à l'aise quand elle est confrontée à ce qu'elle considère comme un échec.
Mais en
Je ne sais pas
fait,
si je
c'est
suis
pour
clair.
ça que c'est intéressant de lui demander en fait à quoi tu penses que tu n'arriveras jamais, à quoi c'est qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi que tu crois que tu ne vas pas réussir à faire? Tu imagines que tu devrais savoir faire quoi? Et parce que justement, de bien faire la différence entre ce qu'elle imagine que vous attendez d'elle, et parce que parfois les enfants imaginent qu'on attend d'eux des choses beaucoup plus formidables que ce qu'ils ont à faire. C'est quoi ton objectif en fait? Qu'est-ce que tu crois que tu dois savoir faire comme ça tout de suite? C'est sûr que tu ne vas pas écrire comme papa ou maman et comme ta maîtresse tout de suite en commençant. Nous, quand on était petits, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Avant de réussir à faire des choses que l'on fait quand on est grand, on a essayé et raté plein de choses, comme vous dites.
D'accord.
De vraiment le questionner quand tu as dit j'y arriverai jamais.
D'accord.
À quoi tu penses que tu arriveras jamais? Raconte-moi un peu. Avec tout ce que tu sais faire. La rassurer sur ses capacités en général et sur le fait que chacun avance à son rythme, comme vous dites. Mais c'est bien qu'elle se demande un peu, non, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que j'imagine? C'est vrai qu'elle ne va pas réussir tout de suite à faire des choses comme une adulte, comme une grande. Et parfois, les enfants imaginent qu'on attend d'eux qu'ils soient déjà plus grands qu'ils ne sont. Ce n'est pas forcément des attentes qu'on veut leur transmettre, mais eux, ils s'imaginent des choses à notre place.
Et comment dire, je ne veux pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant que bon, bah, tu ne réussis pas, ça n'a strictement aucune importance, on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Elle a eu un échec, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle ne sait pas faire. Je n'ai pas envie de lui dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas
Oui, bah vous ne
pratique.
lui
Je n'ai
dites
pas
pas
envie de
ça.
lui
Vous lui
dire.
dites qu'elle va recommencer et qu'à un moment donné, elle va y arriver. Qu'il faut qu'elle aille à son rythme.
D'accord.
Que vous savez qu'elle pourra le faire, mais que c'est qu'elle continue d'essayer et sans qu'il va y avoir un moment où, en s'exerçant, elle va y arriver.
D'accord. Quitte à laisser tomber l'activité au bout d'un certain nombre de
minutes. Bien sûr, au contraire, en faisant des pauses, en allant. Oui.
Si on s'enferme dans un système où on ne sort pas.
Ouais.
Voilà, c'était ma petite intervention.
C'est vrai. Ouais. C'est ça. Tu es capable, tu peux le faire, tu as les ressources pour réussir. Et tu vas voir que plus tu vas t'exercer, plus tu vas y arriver. Ça prend du temps, c'est normal quand on apprend.
D'accord.
Et déjà, qu'elle essaye d'avoir l'idée de, comment dire, de centrer l'activité, pas sur le résultat, mais sur la tâche en elle-même aussi, ça c'est intéressant. Sur le plaisir qu'on peut avoir à faire l'exercice en lui-même. Si c'est pour écrire, eh ben elle peut choisir par exemple à la maison un petit cahier d'entraînement qui soit un petit cahier joli avec des crayons qu'elle aime bien. C'est son petit cahier d'entraînement, vous voyez, qui est quelque chose qui soit agréable, où elle n'est pas obligée que tout soit écrit tout propre tout de suite, mais quelque chose de ludique pour essayer.
D'accord.
Par exemple. Caroline, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure?
Oui, alors ce n'est pas sur le même sujet, mais c'est sur, c'est toujours sur l'estime de soi, parce qu'il y a aussi, je reviens à ma fille qui a 3 ans, c'est comment leur apprendre aussi à interagir et savoir poser les limites par rapport aux autres enfants. Je pense notamment donc du fait que par exemple elle est pas forcément elle aime pas que les autres enfants la elle est pas très tactile, elle aime pas qu'on la touche ou quoi, et c'est vrai qu'à un moment elle a eu une phase où en réaction elle tapait. Du coup nous on lui a dit que on allait l'accompagner pour qu'elle arrête de taper, qu'il y avait d'autres manières d'interagir et de se défendre. Et maintenant j'étais à la médiathèque par exemple l'autre jour, il y avait un petit garçon qui l'embêtait. Du coup, elle savait plus comment il fallait qu'elle agisse. En fait, je la sentais, elle me regardait, elle était un peu perdue. Donc, elle lui disait non, non, non. Mais elle n'osait pas le taper. Oui. Et en fait, du coup, on envoie des signes contradictoires parce que en même temps, je lui dis qu'il faut qu'elle se défende, qu'elle ne se laisse pas faire. En même temps, je lui dis pas taper. Donc, en fait, je l'ai sentie perdue. Et c'est vrai qu'on envoie aussi, nous, des signes contradictoires sur la manière dont ils doivent interagir avec les autres.
Mm-hmm. Elle peut partir si un enfant l'embête. Parce que c'est vrai que vous avez raison de lui dire de ne pas taper, même si c'est difficile de se contrôler. En tout cas, votre enfant, elle a réussi maintenant à se contrôler, à ne pas taper. Donc, dans ces cas-là, si elle vous regarde, vous y allez, vous intervenez et vous prenez la parole à sa place auprès de ce petit garçon.
Elle est venue se réfugier dans mes bras, du coup. Ouais.
Oui, mais vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Si vous sentez.
Oui, je n'osais pas parce que je me... Oui, je n'osais pas. Je ne savais pas si je devais intervenir ou pas, ou si je devais la laisser apprendre par elle-même à se...
Non, parce qu'elle va copier après ce que vous allez faire, vous voyez. Et si vous intervenez gentiment auprès du petit garçon pour traduire en fait les paroles de votre petite fille, c'est-à-dire vous arrivez en soutien, puisqu'elle, là, vous avez très bien observé, bravo, parce qu'effectivement, vous avez vu qu'elle était embêtée, qu'elle voulait arrêter ça, qu'elle avait essayé, mais elle vous a appelé à la rescousse, n'hésitez pas, vous y allez, et vous dites gentiment. On ne va pas aller gronder un petit enfant, mais on va lui dire, tu vois, là, ma fille, elle n'a pas envie, ça l'embête que tu fasses ça, elle n'a pas envie de ça, donc est-ce que tu peux jouer un peu plus loin ou... Et puis si l'enfant ne veut pas, vous dites à votre petite fille, viens, on va aller de l'autre côté, vous voyez. Et à travers vos mots, elle va apprendre, elle répétera après en grandissant, elle va s'approprier. Elle enregistre la conduite que vous avez eue pour se l'approprier progressivement.
Mais après, il y a aussi le côté, justement, le fait de partir, c'est aussi...
C'est une stratégie.
C'est une stratégie, mais il y a aussi le côté, si votre enfant lui prend
quand il y a un malabar, qu'il est en train de partir. Non, mais écoutez-moi, quand vous êtes face à un malabar qui vous enquiquine dans la rue, vous allez rester lui faire face et discuter avec lui pour lui faire entendre raison? Franchement, Bien sûr que non.
Ouais, mais c'est trouver le juste équilibre. Ouais.
Bah, il faut s'en aller. Mais le juste équilibre, vous n'allez pas parlementer avec un petit enfant qui ne sait pas lui-même, il n'est pas capable de s'arrêter de l'embêter si ça lui plaît, si ça l'amuse. Donc, bien sûr qu'il faut partir. Ce n'est pas du tout un échec de partir quand on n'a pas affaire avec quelqu'un avec qui on peut discuter et à qui on va pouvoir faire entendre raison. Tout dépend de la situation, tout dépend à qui vous avez affaire. Ce n'est pas partir à chaque fois, c'est partir quand on ne peut pas discuter avec quelqu'un. Ça arrive quand même régulièrement.
Ouais.
Et des personnes avec qui vous ne puissiez pas dialoguer, vous n'êtes pas en train de lui apprendre de prendre la fuite. Il y a plusieurs stratégies, en fait, possibles. Et ne pas hésiter à venir en aide des enfants. Ils apprennent avec vous à vos côtés.
Ouais.
Et okay. En fait, ça fait partie des choses qui les renforcent. Ils ont confiance, vous êtes à leur côté et après, ils peuvent grandir sans le filet. Quand ils sont petits, on représente un peu le filet, vous voyez. Parce que sinon, ils veulent se montrer plus forts qu'ils ne le sont et c'est au-dessus de leurs compétences. C'est au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire.
Ok.
On pourrait prendre comme exemple autre. Donc, ça fait partie des choses, justement, qui développent l'estime de soi. Donc, c'est aider son enfant à apprécier ses forces ou ses capacités, savoir où il en est, vous voyez. Bon, le laisser explorer en toute sécurité. On n'est pas loin derrière, effectivement. Valorise ses initiatives. On met des mots sur ses émotions. Encourager la créativité aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour chacun. On respecte son rythme et on identifie ses besoins aussi. C'est important pour les enfants de se sentir reconnus dans leurs besoins aussi et dans leurs particularités. Donc, vous voyez, même pour des enfants qui sont sensibles ou émotifs ou qui sont un peu réservés en groupe, et ben de les respecter dans leurs particularités, c'est important pour eux parce que ça va développer leur confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes. Ils sont respectés dans ce qu'ils sont à ce moment-là de leur vie. Parce qu'on ne sait pas du tout après quel grand enfant ils vont devenir. Il ne faut pas avoir peur de la suite. Vous voyez, on est dans le moment, en fait, avec les enfants. Il faut être dans le moment présent et vraiment le plus possible ajusté à ce que l'enfant il nous montre de lui-même à ce moment-là. Et pas faire le forcing. Parce qu'on aura peur que plus tard, il ne sache pas se défendre dans la vie ou qu'il se laissera faire ou si et ça. Non, plus on le respecte, plus on s'ajuste à ses besoins, plus il va se renforcer sur ce qu'il est capable de faire. C'est très important de soutenir son enfant dans une difficulté, lors d'une difficulté, d'être à ses côtés en lui disant, ben, voilà, là je t'aide, tu vois, comme ça, tu vois comment il faut faire. Quand tu seras grand, tu vas voir, tu vas y arriver de mieux en mieux. Et tu auras plein d'idées de comment tu pourras faire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de situations qu'on pourrait réfléchir comme ça ensemble? Merci.
Moi, j'ai la situation, par exemple, d'une copine à moi qui, je rejoins ce que Caroline disait, c'est-à-dire que oui. quand on est dans une situation où on voit que notre enfant, en fait, il est un peu dépourvu parce que la personne qui est devant lui l'embête et que, voilà, c'est pas, ça nous embête aussi, nous. Donc, je vois que moi, je suis plus dans un esprit où je suis plus vas-y, on va laisser la personne parce que voilà, il y a pas de, elle veut pas se calmer, elle va t'embêter, donc on va prendre un peu de distance. J'ai une copine qui est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que vas-y, défends-toi et essaye de prendre tes repères dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que tu vas plus rentrer dans un sens de conflit et de t'imposer par rapport à la personne, mais de ne pas te faire embêter. plutôt que, ouais. Plutôt que d'essayer d'aller prendre du recul et de laisser faire, quoi. Et ça, parce que quand on est là, on se dit, voilà, on prend, c'est nous qui prenons la peine de un petit peu de résoudre le problème. Mais quand oui. on n'est pas là, on se dit bah, à l'école ou à la crèche ou autre, oui. bah, comment notre enfant il va se comporter en fait.
C'est derrière. Eh ben, il va faire ce que vous lui avez appris à faire. Je pense. Ouais, il va faire ce qu'il a appris à faire avec vous. Parce que demander à un enfant de se défendre s'il n'en est pas capable, il ne va pas être capable de le faire. Et en plus, il va se sentir nul de ne pas y arriver.
D'accord. Oui, c'est...
Oui.
Je vous rejoins sur cette partie-là, mais je ne sais pas en fait comment lui faire traduire en fait ça en disant que moi je demande par exemple à ma fille à chaque fois de dire voilà, c'est quand il y a quelqu'un qui t'embête, tu lui dis arrête et tu vas chercher quelqu'un qui est plus grand pour résoudre cette problématique-là, quoi. Mais c'est possible en tout cas à la crèche là, comme ils ne sont pas très nombreux, donc ça va. Mais oui. Je me dis, l'année prochaine, quand ils seront beaucoup plus nombreux, c'est un petit peu différent.
Ben, là, elle s'adaptera. Parce que il ne faut pas avoir... vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas avoir peur de après. Il faut être dans le maintenant avec les enfants. Le après, ça leur appartient, c'est eux qui se construisent, ils font des choses avec ce qu'ils apprennent dans chaque moment. Et si c'est rassurant pour elle d'agir parce que vous êtes à ses côtés, le filet qui la soutient quand elle est en difficulté, elle intègre les choses, elle s'approprie cette façon de... Elle a confiance dans le fait qu'il va y avoir une solution quand elle sera en difficulté. Et quand elle va être en classe et que vous ne serez pas à ses côtés, elle va trouver des solutions. C'est sûr qu'ils trouvent des solutions. Les enfants sont super intelligents. Hein. Ils savent très bien comment se débrouiller. L'essentiel, c'est qu'ils se sentent tranquilles. Et tout ce qu'on fait à leur côté pour leur donner ce sentiment de sécurité, c'est ça qui les aide après à avoir des idées de solutions quand ils ont une difficulté ou un truc à créer, à construire, quelque chose qu'ils ont à faire.
Oh, je suis totalement d'accord avec vous hein, sur ce point-là.
Ça a beaucoup plus de valeur pour un enfant, sa sécurité, son sentiment de confiance qu'il a pu construire parce que vous étiez à ses côtés quand il en avait besoin, plutôt qu'un enfant que vous allez dresser pour faire ceci ou cela. Et pour moi, apprendre à un enfant à aller se défendre quand il est en difficulté, bah, c'est comme du dressage. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites d'intéressant pour l'enfant. Chacun de nous va faire face aux situations difficiles en fonction de sa propre personnalité, de ses capacités de discussion, de persuasion, de son volume physique face à son adversaire, etc. Il y a plein de paramètres. Plus vous êtes tranquille avec vous-même, plus vous allez utiliser la stratégie adapté dans la bonne situation. Il n'y a pas des stratégies à plaquer comme ça selon son adversaire ou ses difficultés. Ce qui compte, en fait, c'est vraiment le sentiment de sécurité qu'on a à l'intérieur de soi. Et le fait nos parents n'aient pas peur pour nous, parce qu'on aura toujours, des ressources pour faire face.
Ça, il faudra que je l'intègre.
Vraiment, hein, c'est une des choses que les parents vraiment peuvent rendre leur enfant confiant en ayant eux très confiance dans les ressources de leurs enfants. Quand on voit les enfants en groupe comme ça, on s'aperçoit à quel point ils sont intelligents, si petits, tout ce qu'ils comprennent, tout ce qu'ils observent. Et ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de l'assurance que leurs proches, les parents les aiment, les considèrent, les respectent. Effectivement, il n'y a pas que de l'amour dans les échanges hein, familiaux. Il y a parfois aussi des moments où on est dans une relation aussi où on doit remettre le cadre, des règles de vie. On ne va pas se coucher à n'importe quelle heure, on ne va pas laisser son enfant manger sans discontinuer des bonbons, des chips ou je ne sais quoi, ou rester sur un jeu d'ordinateur à l'infini. À un moment donné, on va lui dire bah non, ça, tu ne peux pas le faire. Ça, ce n'est pas possible, on arrête là. Et donc, supporter aussi que l'enfant ne soit pas content. Mais du coup, ça veut dire aussi choisir sur quelle chose, quels sont les aspects incontournables, vous voyez, dans l'autorité. Et l'enfant saura d'autant mieux, parce qu'il y a des règles, en fait, où des fois, on perd son énergie sur des règles qui sont peut-être moins importantes que d'autres, dans les rapports de confiance, comme ça, dans les vies de famille. Les règles d'éducation. Il y a vraiment quelques règles
choisir son combat, puis... quoi.
Comment ?
C'est choisir son combat, quoi.
Oui, c'est vrai, d'éducation, ouais. Ce qui va vraiment élever mon enfant au sens de élever dans ce sens-là. Le porter vers le haut, ouais. J'aime beaucoup le livre de Isabelle Filioza, si dans le
oui,
hein, fais-toi confiance, il est, vous pouvez vraiment
fais-toi confiance.
Oui, celui-ci là, c'est super. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres d'elle.
C'est Il me cherche et en fait elle a deux selon l'âge. En fait, elle en a un de 0 à 6 et l'autre de c'est 0,5. Non, c'est 1,5 et après, c'est 6-11 ans. Et en fait, c'est le premier, c'est Il me cherche. Et après, le deuxième, je ne me rappelle plus lequel. Comment ça s'appelait, en fait, le titre. Mais c'était avec des situations où elle montrait, en fait, la réaction à mettre en place pour telle ou telle situation, quoi.
En tout cas, elle explique bien dans l'idée de fais-toi confiance que vraiment, il y a des fondamentaux avec les enfants qui sont en fait assez simples, vraiment simples, et qui sont des paroles ou des attitudes parentales qui permettent à chaque enfant de sentir tranquille avec ce qu'il est, tranquille avec ses difficultés, tranquille avec ce qu'il imagine que ses parents attendent de lui. Parce qu'ils se racontent des choses, les enfants, ils se racontent, ils imaginent parfois qu'on attend des choses d'eux extraordinaires. Je pense à la petite fille de Monsieur le Père qui imagine peut-être qu'elle devrait déjà savoir tout de suite écrire, n'ayant pas encore commencé, pour épater son papa et sa maman. Alors que je n'ai pas l'impression que ce soit vous qui lui demandiez une telle chose, vous voyez, mais les enfants, ils se racontent des choses.
Quel est l'auteur dont vous parliez ?
La petite fille de 7 ans qui disait « j'y arriverai jamais » quand elle voulait commencer à écrire. Peut-être qu'elle imagine qu'elle aurait dû déjà, pour épater son papa et sa maman, savoir écrire déjà parfaitement, et ça lui semblait difficile, ce en quoi elle avait raison. C'est difficile d'écrire si bien que le modèle au début, quand on commence. Et ça met, et je ne crois pas du tout que ce soit son père ou sa mère qui lui ait demandé une telle chose. Vous voyez, c'est elle qui imagine que...
J'ai mis dans le chat le nom de...
Ah, merci.
Et parce que vous n'avez pas un partage d'écran, ma bibliographie ?
Non, non, non.
Oh, ça n'a pas marché, alors.
Tout à l'heure, ça marchait. Et après, c'est parti.
Ah, dommage. Alors, comment je pourrais faire ? Écran partagé, je vais revenir. Là, peut-être ça marche ?
Oui, ça marche.
Super.
Ok, super.
Ouais. Alors, il y a Jacques Salomé aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, C'est un psychologue qui a écrit aussi beaucoup de choses sur l'estime de soi. C'est très, très intéressant. Ça ne concerne pas que les enfants, hein, ça concerne aussi les adultes, mais c'est super intéressant. Je peux peut-être insérer quelque chose. Une autre petite zone de texte. Ça s'écrit Salomé comme le prénom, S-A-L-O-M-E, Jacques Salomé, sur l'estime de soi.
S-A-L-O-M-E. O-M-E.
Ouais. Non, t'as un petit bébé.
Oui, c'est...
c'est l'heure du repas. Est-ce que vous auriez d'autres questions, des choses que vous aimeriez réfléchir sur ça?
Pour moi.
Non, je vois quelque chose, vous voyez, sur les règles qu'on peut établir un peu à la maison avec, je pense, sur les repères, voilà. On peut échanger parfois à la maison sur des règles aussi, quand les enfants sont plus grands, hein, en particulier quand on a des adolescents à la maison, sur les temps d'écran, ça peut être des choses qui peuvent être discutées. Quand c'est compliqué d'imposer un temps réduit, on peut réfléchir ensemble. Bon, toi, tu penserais que... voilà, moi, je pense que c'est ça qui serait bien comme temps, où on peut demander à l'enfant, toi, tu verrais ça comment? Alors, il peut proposer quelque chose, et là, vous allez dire, ben là, c'est trop, mais essayons de faire ça, un compromis, et de s'entendre, vous voyez, sur des règles, des habitudes. Ça, c'est quand ils sont plus grands. Quand ils sont petits, ça ne se discute pas vraiment, les règles de vie. C'est vous qui savez mieux que les enfants. Sur l'histoire des heures de coucher ou des moments de ce qu'on peut manger, pas manger, enfin, c'est plutôt vous, hein, qui c'est pas trop des choses à discuter quand ils sont petits. Est-ce que vous avez des souvenirs de vous quand vous étiez petit, ce qui vous faisait du bien justement pour vous sentir en confiance ou respecté, ce qui a pu développer chez vous votre estime de vous-même et vous donner confiance, voilà. En fait, c'est en faisant des choses, hein, qu'on développe par l'expérience, qu'on prend confiance par l'expérience des choses que l'on réussit. Et l'estime de soi, vraiment, c'est le mélange entre la confiance que l'on a pu développer dans nos expériences et la constance, en fait, de la façon dont on s'est senti perçu par les adultes qui s'occupent de nous. Et donc, c'est important d'avoir à nos côtés des gens qui nous comprennent. Et parfois, il y a besoin d'aller retourner voir des enseignants pour discuter un peu avec eux tranquillement, pour faire un peu l'intermédiaire ou le traducteur entre son enfant et telle maîtresse ou tel professeur, de manière à ce que les enseignants connaissent mieux votre enfant, peut-être pour qu'ils aient une attitude qui soit en correspondance et en aide avec les besoins de votre enfant. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que vous avez pu enregistrer le premier écran? Est-ce que vous souhaitez revenir sur les liens?
Pour moi, aussi.
Ouais.
J'ai fait une capture d'écran du deuxième slide, mais pas du premier, effectivement.
Celui-ci.
Ouais. C'est quoi là, si tu dis apprendre à éduquer?
Il est intéressant, le site, la Papa Positive aussi. Il y a des outils. Alors moi, je ne suis pas très cahier d'exercice, hein, Pas du tout, mais bon, après, ça fait très coaching, mais il y a d'autres, par contre, il y a d'autres idées qui sont intéressantes. L'estime de soi chez les jeunes enfants, c'est très intéressant. Et puis le site, là, Papa Positive, il a des choses aussi très chouettes sur les émotions à partager, justement, avec son enfant, avec son adolescent. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, à l'espace prévention santé. On peut être vraiment à disposition pour réfléchir un peu plus sur une situation ou une autre et chercher peut-être des astuces plus appropriées. Au cas particulier. Voilà. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne
Merci.
après-midi, bonne
Merci à vous
continuation.
aussi. Merci
Merci d'avoir
beaucoup.
participé
C'est gentil.
avec nous à ce Zoom et n'hésitez pas, on est là, on a des documents à partager avec vous si vous en avez le besoin et des discussions. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Et alors, du coup, juste l'espace prévention, c'est quoi? C'est une équipe de la
Service de
mairie.
la mairie, donc un service du CCAS de la ville de Châtenay-Malabry. Et nous avons des locaux à la Butte Rouge de l'autre côté du cinéma Le Rex, tout en
Oui.
haut, Square Henri Sellier. On est là.
D'accord.
Sinon,
D'accord.
vous nous trouvez je pense qu'on a une adresse mail sur le site de la ville et un numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre quand vous voulez.
D'accord.
Moi, en tant que psychologue, je suis là 2 matins par semaine. On reçoit aussi parfois du public, hein, si vous avez besoin qu'on se rencontre pour discuter de quelque chose. Et les rendez-vous sont anonymes et gratuits, mais il y en a peu dans l'année. Ce n'est pas du tout du suivi, mais un échange pour
D'accord, ouais.
sous forme de discussion. Et nous faisons des actions. On fera d'autres rencontres. On va faire une rencontre. Le 12 avril aussi sur les écrans et le 10 mai sur le fait d'être parent, mais pas seulement. Donc sur aussi la vie de chaque individu en tant que personne, dans son couple, en professionnel et en tant que parent, qu'on va combiner tous ces aspects d'une vie. C'est parfois pas si facile. Ça, ce sera le 10 mai. Et vous pouvez retrouver après, si vous le souhaitez, soit des enregistrements de nos discussions sur le site de la ville. Voilà. Ben,
Ok,
je vous
parfait. Merci
remercie pour
beaucoup.
votre
Merci
présence. Au
beaucoup.
revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.